mai au Café Oriental. J'ai réussi totalement cette histoire.
Moi, j'ai essayé de vous passer au passant-gage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux plaquettes de dépressivement, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur la fréquence de la paix. Dans leur message pour la réussite du processus électoral, le cardinal archevêque de Kinshasa et les évêques membres du comité permanent de la CENCO se disent tous peinés de constater les restrictions des libertés individuelles, la croissance de la répression et d'intimidation à l'approche des échéances électorales. Pour la CENCO, l'avenir heureux de la RDC réside incontestablement dans la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, le respect de la Constitution et dans la tenue des élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels. Certains observateurs estiment que pour la réussite du processus électoral, les acteurs politiques ainsi que l'ensemble de la population devrait capitaliser ce message de la CENCO. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Mimi Kindou est à la technique, Fesa Julie Bongonda est au standard et Piro et la Mégie à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Nungembo sous la supervision éditoriale de Martin Seboujangui. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Écho d'économie sur Radio Capi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Voilà, une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi. La déclaration de la CENCO appelant à la tenue des élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels est commentée de manière diverse dans la classe politique congolaise. À l'approche des périodes électorales, les prélats catholiques ont jugé la situation politique dès lors inquiétante et préoccupante. Nous avons en ligne Maître Hubert Chiswaka, qui est le président, le directeur général de l'Institut des recherches en droit humain. Maître Hubert, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes venu en direct de Lubumbashi. À Kinshasa, ici, vous avez, ensemble avec d'autres membres de la société civile, organisé, un atelier pour réfléchir sur les périodes électorales qui pointent à l'horizon. Et aussi, vous avez pu commenter l'actualité de l'heure avec la déclaration de la CENCO. Est-ce que nous pouvons avoir une idée? Est-ce que cette situation, comme cela inquiète la CENCO, inquiète également votre structure?
Absolument, parce que c'est présent dans le pays, nous sommes dans une certaine incertitude de l'avenir de la République et les institutions semblent avoir des difficultés à nous dire vers où nous allons. Et alors, le message de la CENCO, c'est un message qui nous renforce et qui renforce nos positions parce que si les institutions ne savent pas donner une bonne direction, alors la CENCO demande, comme la société civile d'ailleurs, à ce qu'on puisse capitaliser les contraintes de la société civile et de la population, à contraindre les animateurs à respecter juste les prescrits de la Constitution. S'ils n'ont pas une vision très claire de là où ils amènent, alors ils doivent au moins respecter la Constitution. Je soutiens le message de la CENCO et c'est la préoccupation de notre institut de recherche en droits humains.
Voilà, donc si je comprends bien, vous rejoignez donc le souci des plus d'un et le souci également de la CENCO qui tient à ce qu'on puisse capitaliser les acquis de la démocratie en respectant bien entendu la Constitution qui est la loi fondamentale. Mais à ce jour, vous ne craignez pas comme les autres que ce dialogue puisse en fait amener au glissement?
Absolument, parce que de notre point de vue, on gère un État avec des lois. Nous avons des lois et nous avons l'obligation de les respecter. Si on ne sait pas faire respecter les lois que nous avons, on ne va pas aller avec l'arbitraire, soi-disant, pour le dialogue. Il faut d'abord faire appliquer les lois. Celles que nous les avons, elles sont applicables avant de changer ou essayer de faire changer à travers un forum para-institutionnel.
Voilà, c'est un point de vue citoyen qui vient de la part de la CENCO. Est-ce que vous également vous considérez ça comme tel? C'est une contribution comme n'importe qui pouvait le faire?
Oui, absolument. Dans notre forum, nous avions dit on ne peut pas interdire au chef de l'État ou même à la majorité, son parti politique, de procéder au dialogue. D'ailleurs, le dialogue, c'est une vertu, ça devrait être au quotidien que les gens devraient dialoguer. Pour faire le dialogue, il ne faudrait pas qu'on puisse crier sous les ondes ou bien instituer toute une institution sur ce qu'on pourrait appeler le dialogue. Donc, le résultat de cette institution, de ce forum, qui est informel, qui est privé entre individus, ne doit pas lier la République et ça ne doit pas lier les autres institutions qui sont, elles, contraintes par la Constitution. Pour bien fonctionner dans le pays, les institutions doivent respecter la Constitution. Si on doit aller au dialogue, c'est juste une façon informelle pour avoir le plus d'informations afin de mieux respecter ce qui est dans les lois et la loi fondamentale, c'est la Constitution.
Alors, je crois que nous devons rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent intervenir par nos numéros. Nous nous excusons donc au lieu d'utiliser les 081 890 75, composez plutôt les 081 890 49 69. Monsieur Hubert, maître Hubert Tshiswaka, son porte-parole, la majorité affirme d'avoir pris acte de la déclaration de la CENCO. Que vous inspire cette prise d'acte?
Ça, c'est une déclaration politique comme un nom politique. Il ne peut que trouver un argument stratégique dans leur stratégie politique afin qu'ils puissent continuer avec leur agenda. Et vous savez que l'agenda, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la majorité, ce n'est plus l'agenda de la majorité de la population. Aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse avoir une bonne lecture de la sociologie politique. Ce qu'on appelle la majorité, c'est un groupe d'individus qui sont des animateurs politiques, qui constitue un parti politique qui ne représente plus tellement l'opinion de la majorité de la population. Et ce qui ressort de la majorité de la population, c'est qu'on puisse respecter la constitution qui a été adoptée en 2006, promulguée en 2006 par référendum. C'est là l'opinion de la majorité de la population. Les parlementaires ne constituent plus que la minorité et ils ne peuvent pas remplacer cette voix majoritaire qui est exprimée par référendum.
Voilà, 081-890-49-69 pour votre intervention en direct. Vous pouvez également nous faire parvenir vos messages sur notre courriel pa@radiocapi.net.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Dali.
Voilà, merci de nous rejoindre. Gaston, vous êtes à Kinshasa, mais entre-temps, Maître Hubert, vous êtes encore en ligne, Maître Hubert.
Oui, je suis encore.
Voilà, nous vous gardons en ligne, hein, ne quittez pas. Il est temps d'accorder la parole à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre également. Gaston, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Merci, bonjour à vous aussi, j'ai la
course. Alors, à l'approche des périodes électorales, les prélats catholiques ont jugé la situation très préoccupante et inquiétante. Est-ce que c'est là, vous inquiète également?
Non, jamais, moi ça ne peut pas m'inquiéter. D'ailleurs, je veux dire à tout ce monde-là, que ce soit les politiciens, d'avoir tous les apaisements, parce que ce qui est vrai, la population n'est pas prête à réagir dans le sens de semer des troubles, bien que sachant que la stratégie était de pérenniser les choses, de pérenniser le système. La population, disons les politiciens, doivent être calmes au lieu de chercher à monter des stratégies qu'on a qui n'ont pas leur place parce que nous, population connaissant, nous savons qu'on ne va pas réagir, ils avaient déjà tracé leur stratégie. Depuis 2006, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je peux dire même depuis que notre président est au pouvoir, il savait déjà que les choses vont aller dans ce sens-là et je vais rester là éternellement. Pourquoi vraiment vous en préoccupez? Parce que je vous dis que la majorité n'est pas prête. Je dis que la population n'est pas prête à sortir c'est des troubles psychiques, ces droits sont bafoués. Vous savez, la constitution, la viole à tout moment. C'est depuis son apparition que ça a toujours été violé, c'est pas quelque chose de nouveau. Les droits fondamentaux, vous le savez, mais je veux dire, par rapport à l'intention qu'on a aux non-politiciens, de semer des troubles pour provoquer des sentiments de peur chez la population, ça ne vaut pas la peine. C'est une façon de manger, qu'on m'a donné à manger pendant cette période à cette population qui sont chaque jour pour s'en servir. Vous ne voyez pas comment dire que les choses marchent bien, c'est pas comme dans d'autres pays chez nous. Les gens comprennent que ça ne sert à rien de sortir, aller. Peut-être aller trouver la mort pour rien, faut le voir, pardon, aujourd'hui ça c'est la position de la majorité que j'ai, de la population que je vois.
Voilà, merci beaucoup Gaston. Donc nous retenons que pour vous la situation ne vous inquiète nullement, car la population pour vous elle est calme, elle continuera à l'être. Mais ce que l'on vit, selon vous, aujourd'hui a été déjà planifié. Il y a, selon vous, des signes qui ne trompent pas. La majorité n'est pas encore prête pour aller aux élections et c'est pratiquement le même sentiment qui est partagé avec d'autres politiques. Merci beaucoup Gaston. Félicien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Félicien.
Bonjour à, aux invités qui sont là, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Voilà, nous avons Maître Hubert comme invité, Tshisoka, qui est le directeur général de l'Institut des recherches en droit Zuma. Ils ont organisé un forum pour, au fait, scruter le message de la CENCO autour de ces assises qui seront organisées incessamment. Alors, ils ont également émis leur point de vue par rapport à cette préoccupation. Alors, Félicien, il y a des inquiétudes de la part de la CENCO. Est-ce que vous avez le même sentiment?
Exactement, j'ai le même sentiment. Ce que la CENCO a dénoncé, c'est ce que nous vivons. La CENCO est peinée pour les restrictions de liberté individuelle, nous les vivons. Il y a la croissance de la répression et de l'intimidation, nous les vivons. Ça ne commence pas aujourd'hui, même aux élections de 2006-2011, nous avons vécu le même climat. Alors, mais là où je trouve la contradiction, au même moment où on déplore tous ces abus, et au même moment où on veut aller aux élections, dans le même climat, dans les mêmes conditions. Est-ce que c'est pour avoir vraiment des élections libres et transparentes avec ce climat-là? Et puisque rien n'a changé, c'est pas une raison pour que nous puissions aller au dialogue, afin que nous puissions baliser les chemins, pour que nous puissions discuter et trouver même une formule. Ce gouvernement-là qui entretient ce climat-là va nous amener aux élections et ça sera quelles élections? C'est là où la CENCO devrait réfléchir. Moi, je pense que le poids du peuple devait se manifester au dialogue, où on devait démontrer que la majorité au pouvoir a échoué et maintenant le peuple récupère la situation. On forme un gouvernement où la vraie opposition, prend les postes stratégiques et on conduit les gens plutôt aux élections, des élections libres, transparentes et paisibles. Mais si nous passons à ce qu'on est en train de dénoncer, je voudrais savoir, on nous amène aux élections de 2006-2011 que tout le monde a reconnu qu'elles n'ont pas été de bonnes élections. On nous amène à l'alternance, ou bien seulement la tête de Kabila qui ne plaît pas, mais qu'on puisse prendre n'importe lesquels de la majorité qui puisse encore devenir président. Moi, je pense que là, les violons ne s'accordent pas entre le peuple et les leaders. Parce que le peuple, si on veut changer, qu'on change une bonne fois pour toutes. Alors, si les dirigeants politiques, surtout du côté de l'opposition ou des leaders d'opinion, trouvent que ce n'est pas avec Kabila qu'on doit faire la transition. C'est au dialogue qu'ils doivent peser de tous leurs poids pour dire oui, que Kabila termine son mandat, et après nous organisons une transition pour des élections transparentes, libres et paisibles. Parce que vraiment, aller dans ces conditions, ce ne passera pas des élections. Alors pourquoi le peuple doit aller aux élections pour les élections sans atteindre l'objectif de bientôt 15 ans? Pourquoi faire des élections si les élections ne peuvent pas donner les résultats escomptés? Donc c'est là où moi je trouve un peu de contradiction.
Voilà, merci beaucoup Félicien. Vous avez en fait fait observer ce paradoxe qui existe entre la dénonciation faite par la CELCO qui a évoqué quelques contraintes et quelques problèmes auxquels fait face aujourd'hui à travers donc, la RDC. Mais de l'autre côté, la même CELCO réclame d'aller aux élections avec ces mêmes difficultés. Et c'est là où vous trouvez que cela est vraiment paradoxal. Mais vous demandez à ce qu'on puisse d'abord se parler et qu'on accepte d'aller jusqu'à la fin du mandat de l'actuel président pour que finalement on puisse décider si oui ou non l'opportunité d'organiser la transition. Merci beaucoup Félicien d'avoir appelé dès qu'il y a ça. Sylvain, vous êtes à Bouya. Bonjour Sylvain.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les Congolais,
Vous avez la parole Sylvain, vous avez suivi Gaston qui pour lui semble ne pas être inquiété par rapport à la situation qui est actuelle. Félicien, lui, il a insisté, il a évoqué le paradoxe qui existe entre la déclaration de la CELCO. Alors, quel est votre avis Sylvain?
Je voudrais d'entrée de jeu remercier la sincérité de tous les évêques congolais qui réellement se définit en sentinelle pour la protection de la République. Et je voudrais ici inviter tous les Congolais et tous ceux qui doivent prendre à ce moment ici à développer le bon sens patriotique pour la protection de notre bien commun qui est le Congo. J'ai suivi les précédents qui ont parlé avant moi. Je voudrais bien m'attacher à mon humble devoir de respecter les coups de vie des uns et des autres, puisque c'est aussi ça la démocratie. Mais attention, je pense que lorsque nous observons la situation de notre pays, il y a lieu de s'interroger et de se questionner sur certains faits et certains événements qui profilent à l'horizon. Puisque lorsque vous sentez dans les discours des évêques congolais, c'est pratiquement une alerte. Et cette alerte, que pour moi, je dis, elle éloge les cœurs des Congolais qui se préoccupent de l'avenir de ce pays. Et là, moi, je dis que nous avons intérêt à nous interroger sur l'avenir de la République démocratique du Congo, qui est la seule patrie qui nous revient. Qu'est-ce que je dirais, monsieur le journaliste? J'analyse correctement la situation en bloc. Et je me rends compte que l'avenir de ce pays, c'est très compliqué par l'incertitude dans laquelle vit certains hommes politiques dans ce pays. Et là, ça me profite, puisque je dois vous dire aussi, ça veut dire que dans un système démocratique, il faut certifier et il faut rendre fiable, certain, l'organisation des élections qui change le cycle de vie d'une nation. Or, je me dis, depuis 2006 jusqu'à ce jour, nous sommes passés déjà dans deux étapes, on dit les deux élections réalisées. Et cela consolide la petite démocratie du Congo. Et je me dis, il va falloir que nous allions vers la troisième élection, la quatrième élection, pour que nous puissions échelonner avec les États du monde vers le rythme de la gouvernance démocratique. Et donc nous avons tout intérêt, ensemble avec les Congolais, j'ai réitéré mon engagement vis-à-vis de leur côté, pour que le chef de l'État actuel, le président Kabila, qui est géniteur de la petite démocratie du Congo, puisse respecter les engagements qu'il a pris lors de la dernière prestation de serment qu'il a faite après les élections de 2011. Cela garantirait non seulement l'avenir du Congo, mais son avenir lui-même. Il introduirait un nouveau règne dans la République démocratique du Congo et il ferait la première histoire de notre pays. Moi, je pense. Allô?
Oui, on vous suit, Sylvain, mais rapidement, parce qu'il y a beaucoup de nombreux qui attendent également à intervenir.
Moi, je pense. Avec tout ce qui se dit, tout ce qui se dessine dans la République, le dialogue, les problèmes au sein des choses de ce pays, il va falloir que nous puissions nous résumer en un seul mot, le respect
de la Constitution.
Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à espérer que de demander au chef de l'État actuel et à toute la majorité présente.
Alors, comment vous commentez, Sylvain, c'est pas mon intention de pouvoir vous retenir le plus longtemps, mais que vous inspire l'affirmation des évêques lorsqu'ils disent que cette déclaration s'inscrit, en fait, dans les cadres de leur contribution pour la consolidation de la paix, la sauvegarde de la démocratie et le respect de la Constitution.
Vous savez, monsieur le journaliste, il faut d'abord se rendre compte que dans une gouvernance d'un État responsable, et surtout dans la gouvernance mondiale des États, il faut savoir qu'il y a plusieurs acteurs. Il y a les dirigeants, il y a les ONG, il y a les institutions de la République. Tous doivent marcher ensemble. Et moi, je pense, je me lie à la confirmation ou à l'affirmation des évêques, pour se dire qu'ils sont des sentinelles. Et moi, j'accepte ça. Et je crois que comme un évêque, comme un pasteur, on lance une alerte. Et je crois que ça doit interpeller. Et les Congolais, les dirigeants, et pour moi, c'est pour garantir l'avenir de ce Congo meilleur pour nous. Donc je dirais en bref que c'est un acte de haute responsabilité du côté de nos évêques, que tout le monde doit soutenir, y compris le chef de l'État. Et moi, je me dis que les médias doivent nous aider à passer ce message au quotidien pour que les gens comprennent la quintessence et les soucis majeurs de cette communication.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Sylvain. Pour vous, cette déclaration est un acte de haute responsabilité et vous en appelez aux différents ONG de pouvoir s'en servir pour sensibiliser davantage la population à cette notion de la consolidation de la paix, la sauvegarde de la démocratie et le respect de la Constitution. Merci beaucoup, Sylvain. Denis, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Denis.
Bonjour.
Vous avez la parole, Denis.
Oui, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Moi, je voudrais dire ici que la déclaration des évêques s'inscrit dans la démocratie parce qu'ils sont libres de dire ce qu'ils pensent, mais je ne vois pas la réalité dans tout ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'il ne faut pas confondre la Bible avec la Constitution. La Constitution, c'est notre livre écrit par les hommes. Et la Bible, c'est écrit par Dieu. Et même la Bible qui a été écrit par Dieu, qui a été révélée par Dieu, n'est pas respectée correctement par ces évêques. Il faut dire qu'il y a un problème. Le problème est là. Ici, ce n'est pas encore le moment de condamner qui a provoqué le problème. Et si ce sont les hommes qui doivent trouver des solutions à tout ce que nous avons comme problème. Regardez la façon dont nous organisons les élections. Dès que nous avons commencé à organiser les élections, les problèmes résident au niveau du climat. C'est ça le premier problème, le climat. Vous savez, les politiciens ont soudoyé la population. Ils ont mis la population dans une position où la population ne sait plus comprendre beaucoup de choses. Vous savez, il y a des morts à chaque élection. 2006. Vous le savez bien, vous le savez, messieurs les journalistes, que les élections ont été publiées dans le char de la Monique à cette époque.
Non, je crois que Denis, nous devons vous couper tout de suite. Les élections ont été publiées en 2006. À la RTNC, en tout cas la télévision nationale congolaise, et tout le monde avait suivi. Je crois que c'est
merci,
cela.
Merci beaucoup pour votre dire, mais je voudrais dire que Mademoiselle a été encadrée bien qu'il était arrivé à la RTNC. Et vous savez bien qu'après ces élections, il y a eu beaucoup de morts. D'abord, avant ces élections, pendant la campagne, il y a des gens qui sont morts au
temps oui, de la campagne. Oui, mais ne pas, ne vous pas de Denis, s'il vous plaît. Denis, s'il vous plaît, n'évoquons pas de souvenirs malheureux de la fois passée. Allons, regardons l'avenir. Hein. Voilà, bientôt, voilà, par rapport à la déclaration.
Ce sont ces souvenirs qui doivent nous montrer l'avenir.
Alors, par rapport à l'avenir.
Que nous pouvons organiser les autres choses. Aujourd'hui, tout le monde déclare élection. Nous allons organiser des élections pendant que tout le monde qui va dans cette élection, personne, nous obligeons aujourd'hui, personne ne va accepter les résultats. Personne, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté de la majorité. Même les élections de 2011, il y a un temps qui a préparé les élections, il y a un temps qui a préparé la consécration.
Oui, mais Denis, en 2011, il y a eu une partie de l'opposition qui n'avait pas accepté les résultats. Cela n'a pas empêché la machine à tourner. Donc c'est la même chose si aujourd'hui, par exemple, la majorité gagnait et que l'opposition perdait. La machine va continuer et vice-versa.
Non, il ne faut pas dire que ça n'a pas, pas empêché. Ça a empêché. Vous savez que quand on dit pourquoi il y a eu une négociation, si on l'appelait
concertation.
C'est parce qu'il n'y avait pas confiance. Les climats n'étaient pas bons. Depuis le 2011 jusqu'à aujourd'hui, bien qu'ils sont tentés de diriger, il n'y a pas confiance.
Alors, mais pour vous, quel est le résultat? Quel est le résultat avec les concertations?
Bon, les concertations ont donné les résultats qui sont donnés. Je ne pense pas que c'est le même cadre aujourd'hui. Le cadre de la consultation, de la consultation a été un autre cadre. Aujourd'hui, c'est vraiment...
Un autre cadre.
C'est vraiment c'est vraiment un forum qui se passe les consultations. Les consultations parce qu'il faut faire asseoir tout le monde pour que nous puissions recadrer les choses. Parce que ce n'est pas seulement le fait de faire les élections et que les choses changent dans la République démocratique du Congo. Non. Il faut que nous puissions prendre des bonnes bases pour que plus question le monde pour les élections.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis. Merci beaucoup, Denis. Nous rappelons à ceux qui veulent bien participer à cette émission qu'ils peuvent nous contacter donc au 081 890 49 69 et ils ont également la possibilité de poster leur message sur notre page Facebook. Voilà, nous avons comme invité Maître Hubert Chiswaka qui est le directeur général de l'Institut des recherches en droits humains, cette institution qui a organisé tout récemment un forum à Kinshasa pour, au fait, interpréter cette déclaration des évêques. 081 890 49 69.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081-890-6489.
Nous entamons la deuxième demi-heure de l'émission Parole aux auditeurs. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cet échange citoyen. Maître Hubert Chiswaka, vous êtes encore en ligne. Vous êtes avec nous?
Oui, je suis encore en ligne, je vous suis.
Alors, vous venez de suivre les interventions des uns et des autres. Il y a Gaston qui a appelé des Kinshasa, Félicien de la même ville, province de Kinshasa, et Sylvain qui a appelé des Bounia, Denis des Kinshasa. Voilà, quelle est votre réaction par rapport aux préoccupations des uns et des autres?
Je veux dire deux choses. La première, c'est que il faudrait bien comprendre le message de la CEDEAO. D'après la façon dont nous nous avons compris et ce qui a justifié que nous puissions prendre une position favorable à ce message, c'est que la CEDEAO n'a jamais été contre un dialogue. D'ailleurs, la CEDEAO dit que le dialogue, c'est une vertu que tout le monde devrait avoir. Cependant, ce message veut faire une différence entre le dialogue comme vertu et le dialogue utilisé comme une stratégie politique pour se maintenir au pouvoir. C'est là que la CEDEAO dit, ok, faites le dialogue, mais respectez la Constitution, organisez les élections dans le délai constitutionnel. C'est bien d'avoir le dialogue pour arrondir les angles, c'est bien d'avoir le dialogue comme un arrangement privé entre parties prenantes, mais le dialogue ne doit pas être confondu à une institution de la République. Et la deuxième chose que je voudrais souligner ici, c'est que j'entends beaucoup d'intervenants qui disent non, il faudrait que nous puissions aller d'abord au dialogue, qu'on puisse bien aplanir les angles, qu'on voit comment on va organiser les élections, sinon il y aura des morts. Non, bon, écoutez, il appartient aux institutions publiques, avec le gouvernement en premier, de gérer. Gérer, c'est prévoir. Gérer, c'est prévenir. Gérer, c'est envisager à l'avance des actions qui vous permettent d'accomplir une responsabilité, une obligation dans l'état de l'État. Le gouvernement a l'obligation d'organiser les élections. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on a dit au gouvernement qu'il doit faciliter à la CENI d'organiser les élections. Mais le gouvernement vient de constater seulement maintenant qu'il n'a pas de moyens et qu'il faudrait aller au dialogue. Non, là, on trouve que le dialogue risque d'être utilisé comme une stratégie pour se maintenir au pouvoir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes dans le contexte que nous avons appris en quoi consistera ce dialogue. Le chef de l'État a fait un message le samedi à la nation pour dire qu'il faudrait qu'on aille au dialogue pour qu'on puisse discuter des questions du budget. Il faudrait qu'on aille au dialogue pour qu'on puisse discuter des moyens d'organiser les élections à moindre coût. Or, tout serait déjà prévu. Organiser les élections à moindre coût, ça veut dire quoi? Parce que le suffrage est conditionnel, c'est une obligation. Vous voulez aller au dialogue pour revoir la Constitution ou bien vous voulez aller au dialogue pour discuter du budget? Alors là, on ne comprend pas très bien quel est le contenu de ce dialogue. Alors, pour nos amis qui sont en train de nous suivre...
Oui, d'ailleurs en passant, M. Hubert, ce sujet sur les discours du chef de l'État, nous allons y revenir avec force détail pour voir comment les uns et les autres ont pu interpréter. Vous avez suivi, nos collègues du Dialogue entre Congolais l'ont abordé, donc nous allons y revenir, si pas demain ou après-demain, pour voir comment les citoyens ont réagi aussi par rapport à ces discours.
Ok, d'accord. Je suis d'accord avec vous. Alors, ce qu'il faudra retenir, c'est que le message de la CENCO, que nous partageons aussi comme organisation de défense des droits de l'homme de la société civile, c'est qu'on peut respecter la Constitution et les lois qui régissent le pays. Il ne faudrait pas qu'on puisse sortir du cadre qui nous régit aujourd'hui dans un centre ou bien dans une conférence informelle. Voilà ce que nous pouvons dire jusque-là. Et tous ceux qui sont en train de dire que ce n'est pas nécessaire qu'on puisse mobiliser la population, moi je trouve que c'est très important parce que les évêques demandent à ce que nous puissions prier pour qu'il y ait la paix chez nous, nous puissions avoir un sens civique de la...
Mais est-ce que vous ne craignez pas... Oui. Est-ce que vous ne pensez pas comme les autres, Maître Hubert, la mobilisation de la population, ça revêt quand même un caractère d'incitation à la haine?
Non, la mobilisation de la population rentre dans la responsabilité de l'Église comme membre de la société civile. Ça fait partie de l'éducation civique. Le citoyen doit savoir demander des comptes à ses dirigeants. Si ces dirigeants semblent ne pas écouter ce que le citoyen veut, il faudrait trouver une astuce pour parler beaucoup plus fort que les dirigeants pour
écouter.
Et cette fois-ci, je pense que la façon de parler plus fort, c'est l'Église qui a haussé le ton en mobilisant la population qui exige à nos dirigeants, à ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qui prennent des décisions, d'écouter la voix de la population et de ne pas faire ce qui leur passe par la tête. Il faut écouter la voix de la population. Et la population dit, mesdames, messieurs, respectez la Constitution et organisez les élections dans les délais de la loi. La loi est déjà prévue, les élections, il ne faut pas sortir de ces délais. Parce que si vous allez dans des discussions informelles, ce qui va prévaloir, c'est l'informel, c'est de l'arbitraire, ça ne va engager personne d'autre que ceux qui seront dans la salle. Et d'ailleurs, nous avons vu à plusieurs égards que chaque fois qu'il y a des discussions de ce genre au niveau national, ce qui en résulte, c'est le partage de pouvoir. Ici, il ne faut pas partager le pouvoir dans un dialogue, il faut le partager avec les élections.
Voilà, alors nous vous gardons toujours en ligne, Maître Hubert, pour écouter, passer de l'autre côté du standard avec Norbert qui était à Guadeloupe et Maître Sonville à Lubumbashi. Norbert, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tous nos auditeurs.
Vous avez la parole, Norbert.
Ok. Moi je crois que les évêques ne doivent pas confondre la politique avec leur service sacerdotal. Et ne doivent faire leur service sacerdotal et laisser la politique aux politiciens. Nous avons passé les expériences à deux élections de 2006 et de 2011. N'est-ce pas l'abbé Malou Malou qui nous a amené sur ce film suicidaire et pasteur Daniel Ngoï Moulouda en 2011? Moi, je crois que, à l'heure actuelle, si le président de la République prend le dialogue, c'est la seule voie de nous faire sortir de cette crise. Je vais encore ajouter ceci. Vous savez que le président a passé toute sa jeunesse pour restructurer et redresser la démocratie en RDC. Mais nos amis de la majorité, il y a pire leur intention. Ils cessent de les distraire. Ils que nous tous, nous suivons la voie tracée par le président de la République. Moi, je crois que le dialogue est la seule voie et le seul moyen de nous faire sortir au lieu que les politiciens et les clergés s'affrontent pour nous distraire dans leurs opinions.
Alors, lorsque la majorité dit prendre acte de cette déclaration, que cela vous inspire, Norbert?
Mais s'ils disent prendre acte, d'accord, mais vous savez tout ce que cette majorité est en train de faire. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans l'administration publique, nous ne sommes pas payés. Mais est-ce que cette majorité n'est pas là pour essayer d'aider le président de la République à résoudre certains problèmes? Il ne s'attaque qu'au problème des élections, mais le social de la population. Moi, je crois que nous devons suivre la voie tracée par le président de la République et les clergés et la majorité de nous distraire.
Merci beaucoup, Norbert, d'avoir appelé les badolités à l'Équateur. Nous prenons Maître Sonville. Vous êtes à l'ambassade, Maître Sonville. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Gire. Bonjour à Maître Hubert. Bonjour aussi à tous les millions d'auditeurs de la radio de la paix.
Quel est votre avis, Maître Sonville?
Oui, je fais d'abord mienne cette déclaration de la CENCO et je suis peiné de même manière que la CENCO de constater la restriction des libertés de manifester. À titre illustratif, Monsieur Gier, il y a eu une marche à Goma le samedi dernier où la Lucha a voulu rendre hommage aux Congolais qui continuent encore à mourir à Beni. On a enregistré des arrestations, on a réprimé cette manifestation, aussi longtemps qu'elle a été autorisée, quand même nous vivons dans un régime déclaratif, là où on déclare seulement la manifestation, on est informatif, là où on informe seulement l'autorité, et la manifestation se tient. Or, pour cette situation, l'autorisation a été donnée à ces jeunes dirigeants. En ce qui concerne la liberté individuelle, l'Église catholique ne fait que tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'il y a eu même la police a même tiré à balles réelles à Goma. La liberté individuelle, les exemples qui disent cela sont les gens. L'existence des prisonniers d'opinion tels que Muyambo, Bano Kiboko, les jeunes de la Lucha, dit pas la journaliste. En ce qui concerne la croissance de la répression et l'intimidation, ça suffit. L'arrestation des jeunes de l'IMAFEC sans autre forme de procès, à la cause d'une séance électorale. On a réduit aussi sur plusieurs chaînes de radio-télévision, telles que RTLJ à Lubumbashi, Radio-Canal du Tigre, il y a de cela 4 ans. Et nos populations, sans distinction des races, des tribus et des religions, nous devons capitaliser ce message. Monsieur Pierrot, l'Église catholique a pignon sur lui, là il ne faut pas nous leurrer. L'Église catholique se retrouve dans le fin fond, là où il n'y a même pas de chef de quartier qui représente le pays. Et le problème de cette population, de cette population, est résolu par l'Église catholique. Ça veut dire que l'Église catholique ne peut extérioriser la volonté de la population. Quand l'Église catholique dit que recours à l'article 64, c'est constitutionnel. On veut tout individu, tout Congolais, est dans l'obligation de faire échec à un même individu, soit un groupe d'individus, qui doit prendre le pouvoir par force. Ce n'est pas du fait que l'Église catholique a déclaré la guerre. Non. C'est l'aveu de cette population, d'après même les sondages que l'Église catholique a mis au grand jour, pour que le pouvoir en place soit à l'écoute. L'Église catholique n'a fait que tirer la sonnette d'alarme. Quand il a prévu les actions d'envergure, c'est pas la neuvaine de prière. Est-ce que quand on organise la neuvaine de prière, est-ce qu'il y a un problème? Il y a la guerre là-bas. Je n'estime pas. C'est constitutionnel. Monsieur Pierrot. Et d'ailleurs, nous avons une peine de suivre même l'adresse du chef de l'État, là où il a dit qu'on devait supprimer le système de scrutin, de suffrage.
ce même.
Voilà, maître Sonville, je crois que ça, c'est la thématique que nous allons aborder dans les jours à venir ou dans les heures qui vont suivre. Peut-être bon, demain ou après-demain. Bon, aujourd'hui, nous restons dans la déclaration de l'Église catholique. Vous estimez que. Vous estimez que l'Église catholique. L'Église catholique.
Quand vous voyez même le titre, moi, oui. C'est la déclaration de Québec.
Oui.
Arrêtez de faire couler le sang des Congolais. Faut-il encore que le sang des Congolais puisse couler? C'est-à-dire que l'Église catholique a une mission messianique qui consiste à annoncer, dénoncer et orienter les dangers, prévenir même ces dangers-là. Pour discuter de cette situation, il faut simplement rester dans les cadres constitutionnels.
Voilà, merci beaucoup, maître Sonville. Comme notre invité, vous êtes également favorable à cette position de la CENCO qui, en fait, inscrit ce message dans le souci de pouvoir sauvegarder la démocratie, consolider la paix et aussi le respect de la constitution en République démocratique du Congo. Vous l'avez si bien dit, maître Sonville, l'Église catholique n'a fait que tirer la sonnette d'alarme. Merci beaucoup. Ernest, vous êtes à Matadi. Bonjour Ernest.
Bonjour JR.
Vous avez la parole Ernest et un grand coucou à tous ceux qui nous suivent à Matadi. Et merci de l'accueil que vous avez réservé hein, et pour ces deux grandes émissions qui ont été produites à Matadi les 25 et le 26 et qui seront d'ailleurs différées le jeudi et le vendredi sur les ondes nationales.
Merci beaucoup JR et tous les amis qui sont en train de participer, les invités et les autres qui vont nous suivre en ce moment. Par rapport au message des évêques, je crois que dans la majorité, tout comme dans l'opposition, nous avons des chrétiens de l'Église catholique. Et jusque-là, dans l'Église catholique, lorsqu'on dit la messe, nulle part on a nettoyé par l'Église catholique du Congo la partie qui concerne à prier pour nos autorités. Que nos autorités soient méchantes, mauvaises, je ne sais pas moi comment, dictateurs, dans l'église, nous prions chaque jour à toute rencontre et culte, nous prions pour nos autorités. Donc l'église cherche le bonheur, le bien-être de la population. Tout comme le chef de l'État dans son adresse, il cherche, s'il faut chercher le dialogue, c'est pour que le point commun soit le bonheur de la population congolaise. Je ne vois en rien que l'église puisse malmener le pouvoir en place, si ce n'est pour que le bien de la population congolaise. Il n'y a rien de mauvais dans ce que les évêques ont dit. Ce sont des philosophes, ce sont des théologiens, ce sont des psychologues qui ont étudié les paramètres de la population, comment nous devons vivre, et les retards à dénoncer, les retards que le processus a connus dans ce pays. La majorité savait qu'à X moment, il y aura telle activité, il faut enrôler, lorsqu'on revient sur le droit chemin pour rappeler. C'est une interpellation pour moi. Les évêques ont interpellé les acteurs politiques pour dire, en tout cas, vous avez connu un retard. Voilà ce qu'il faut faire, sinon il y aura ceci ou cela, comme un malheur pour la population. Et curieusement, plus de nous qu'on regarde la décision des évêques, c'est comme si on nous constatait que le pouvoir est en train de répondre d'une façon indifférente tout ce que l'opposition a toujours réclamé. Donc quelque part, je me dis, l'opposition a toujours eu raison que le pouvoir récupère bien après. Et que c'est là que normal que les évêques puissent réfléchir froidement, sans sentiment, pour dire la vérité. Parce qu'on dit, dans le groupe de Bélinga Mouinda, on dit, si tu m'aimes, dis-moi la vérité en face.
Oui, Ernest, déclaration de Sénico, comme déclaration de tout citoyen, ça ne pose pas de problème, mais jouer à la sentinelle, c'est là où certains observateurs ne digèrent pas.
Mais si la sentinelle comme constitution, notre constitution morale ou la constitution joue ce rôle-là. Mais il faut des personnes physiques qui peuvent se lever pour dire, parce que la constitution est en train d'être bousculée à tout moment. Mais ce n'est pas jamais dit qu'on est en train de me violer. Mais c'est des individus qui sont dans la maison Congo qui doivent se dire, non, ici ça ne va pas, il faut interpeller. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont censés d'organiser les élections pour organiser la vie au pays. Il faut qu'une personne physique et l'Église prennent cette responsabilité d'interpeller ceux qui sont dans l'Église catholique, ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont au pouvoir pour que les choses marchent pour seulement l'intérêt de la population congolaise. Sinon, quelle population qu'on va enseigner à l'Église? L'Église enseigne les chrétiens qui doivent être dans les conditions normales de la vie. un peu la situation de la Sentinelle.
Merci, merci beaucoup Ernest. Vous également, vous êtes favorable à cette position de la Telco, comme l'ont dit vos prédécesseurs, Hubert Tshiswaka, notre invité, et également Félicien de Kinshasa, Sylvain Debounia et tant d'autres qui ont évoqué, abondé pratiquement dans le même sens. Maître Zachary, vous nous avez rejoint d'ailleurs dans ces débats citoyens. Vous êtes à Kinshasa, Maître Zachary, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Maître Zachary. Quel est votre avis?
Oui, écoutez, vous ne pouvez pas vouloir manger les œufs et refuser la poule. Vous ne pouvez pas vouloir Malmalou comme président de la CENI qui vous proclame dans les chats et refuser son église, refuser l'émanation même d'où il sort. C'est inimaginable, monsieur. Vous venez de dîner. Est-ce que ce sont des soutanes qui pensent que le Québec ne soit pas des Congolais? Dans la constitution congolaise, il y a un article qui dit qu'on doit laisser les gens libres, on doit laisser les gens dans la liberté de penser, d'association, et ainsi de suite. Est-ce qu'il est dit qu'à l'exception des évêques, et qu'il dit qu'à l'exception de l'église catholique, il n'y en a pas question? Donc ce sont des Congolais à part entière qui donnent leur point de vue dans leur liberté de vie, dans leur liberté d'association, dans leur liberté d'agir. Ils ont donné leur point de vue qu'il faille prendre en considération.
Oui, mais nous ne pouvons pas faire ça. Mais là où ça fâche, Maître Zachary, c'est quand la CENCO joue à la Sentinelle maintenant. Quand la CENCO joue à la sentinelle du processus électoral.
Non, la CENCO ne joue pas à la sentinelle, mais joue plutôt à un avertisseur. Il avertit, c'est une sonnette, vous savez que pour aller à l'église catholique, il y a une cloche. On fait la cloche et les croyants disent qu'aujourd'hui, les gens sont debout, les portes de l'église sont ouvertes. Il tape sur la cloche pour tirer l'attention du public, tirer l'attention du peuple congolais pour savoir. On ne peut pas comprendre qu'on organise les élections en 2006, qu'on les organise en 2011 et qu'on refuse de les organiser en 2016. C'était recul, c'est
donc ça ne justifie pas.
Voilà pourquoi l'Église catholique monte au créneau et avise, c'est un éclaireur, monte au créneau pour dire attention, le peuple devait vous prendre en charge. On ne doit pas consommer ce que le peuple a déjà acquis. Vous savez, arriver à organiser deux fois les élections, c'est un sacrifice énorme. Payé sur les sangs des Congolais qui sont tombés pendant la longue transition de Mobutu, qui a oublié que de 1990 jusqu'à 1997, quand Mobutu a fui, c'était une longue transition. De 1997 jusqu'à 2001, jusqu'à 2006, quand Kabila a organisé les élections, combien de Congolais sont tombés pour qu'on revienne encore à la case du départ? Je crois que les évêques, ils ont raison, ce sont des Congolais à part entière, qu'on les accepte comme tels et qu'on accepte leur message, quand on connaît que vous avez aimé l'Église catholique au travers de Malmalou, qui vous a servi, et vous ne devez pas refuser l'Église catholique pour sa prise de position.
Merci beaucoup, Maître Zachary, d'avoir appelé de Kinshasa. On va prendre Kininga, qui nous a appelé de Kindu. Kininga, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Monsieur J.R.
Vous avez la parole, Kininga.
Merci, Monsieur J.R. Dans l'entrée de jeu, je remercie d'avoir cette occasion, parce que ça fait longtemps que je vous appelle, je n'ai jamais eu l'occasion
aujourd'hui.
C'est ce que vous me faites aujourd'hui.
Voilà, il y a d'autres oui, auditeurs qui sont pratiquement dans la même situation. Oui. Nous profitons d'ailleurs pour dire, comme vous avez déjà nos contacts bien avant, il faut les faire peut-être la veille, nous contacter dès que nous mettons les sujets en ligne. Comme ça, on peut déjà vous enregistrer la veille et ça nous facilitera de vous recontacter le matin. Et là, vous avez droit à la parole comme tout le monde.
D'accord. Moi, j'aimerais savoir, malgré l'interpellation de son Excellence, Monsieur le Président, qui nous a interpellés, au dialogue, toute chose, s'il fallait qu'on comprenne bien quelque chose, il fallait savoir sa genèse. Est-ce que cette crise que la majorité est en train de crier, il y a une crise, la crise a été causée par qui? Moi, je pense que c'est une planification. Ils ont planifié la crise, parce que c'est le gouvernement qui doit doter les moyens à la CENI. C'est le gouvernement qui doit savoir gérer, gouverner, ça veut dire prévoir. À ce qui concerne la CENCO, il n'y a rien à reprocher la CENCO, il n'y a rien à faire. Est-ce que nous aimons ce pays ou bien nous voulons détruire le pays de nos propres mains? Parce que nous sommes tous Congolais. Est-ce que vraiment nous avons le même sentiment que nous sentons, nous, fils de ce pays? La CENCO a fait une interpellation, que tout le monde sache que, d'ailleurs, c'est produit par la Constitution. Les gens qui disent, même la réponse c'est de la majorité. Quand j'ai suivi à la radio, la majorité dit que non, c'est de la bonne guerre, c'est une préparation de la guerre. La guerre contre qui? si une population marque sur la voie, sur la route, est-ce que la population va à la guerre? C'est une précipitation, c'est normal que les gens manifestent contre quelque chose qui ne va pas. Si nous-mêmes, nous ne tenons pas à respecter notre constitution, qui viendra respecter cette constitution? Si nous-mêmes, nous ne tenons pas à respecter nos engagements, qui d'autre, M. J.R., qui d'autre? Nous devons avoir un sentiment, nous devons avoir un amour profond de notre pays. C'est notre pays. Qui vous dit que ce sont ces gens-là qui habitent seulement, qui sont ceux qui doivent devenir le président de la République, s'il n'y a pas des élections? Est-ce que nous, les pauvres, comment est-ce que nous allons accéder au pouvoir s'il n'y a pas des élections? Parce que là, la distribution, le partage des pouvoirs se fait par les quotas de partis politiques. Mais si vous êtes dans un parti politique, vous êtes élu, vous devenez quelqu'un, vous allez accéder au pouvoir facilement s'il y a des élections. Si vous refusez les élections, comment est-ce que nous allons élire les autres qui viendront après nous? Quel est le modèle? J'ai suivi quelqu'un qui a dit que non, le président a passé sa jeunesse pour implanter la démocratie. Tout à fait. Mais qu'il soit le modèle. Il accepte l'alternance politique.
Merci.
C'est ça le vrai problème.
Merci beaucoup, Kininga.
Tout celui qui va... Permettez-moi, je vais terminer. Tout celui qui va donner de bonnes déclarations, vous les taxez des violeurs, quelqu'un qui voudrait la guerre. Non, non, la SECO a fait ce qu'il doit. Nous vivons avec les labés sur cette planète que nous vivons tous. Ce sont des hommes, ils mangent, ils vivent avec nous. Ils voient les misères du peuple congolais. Laissez-les déclarer, c'est une interpellation, c'est pas mauvais. Nous devons comprendre. Il y a d'autres choses qui passent, M. Gilles.
Merci. Merci beaucoup, Kininga, d'avoir appelé de Kindu. On a bien fait de temps. Gracia, vous êtes à Kinshasa, vous nous avez rejoint. Merci beaucoup, Gracia. Bonjour. Gracia? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Gracia. Il est temps de revenir à notre invité, Maître Hubert Sissouaka, qui est directeur général de l'Institut des recherches en droits humains. Maître Hubert, vous êtes avec nous?
Oui, je suis encore en ligne, je suis avec vous.
Voilà, il y a tout à l'heure des auditeurs qui ont réagi, la deuxième série des intervenants. Alors, comment vous réagissez?
Mais vous constatez avec moi que ça fait la grande majorité de la population qui n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer, qui s'exprime là à travers la radio. Et comme je vous l'ai dit, la population constitue le souverain primaire. Et l'opinion qui se dégage, c'est que tout le monde, avec l'Église, soutient à ce que l'État, ou plutôt les institutions publiques, puissent respecter la loi, puissent respecter la Constitution. J'en profite pour en appeler ici à nos dirigeants qu'ils puissent respecter la voix de la population, qu'ils puissent respecter ce que la population dit. Il n'y a pas quatre chemins. Ce que l'Église a dit, c'est le sentiment profond de la population. L'Église a dit que nous allons amorcer des actions. Nous soutenons aussi, nous serons parmi ceux qui vont amorcer des actions. Il faudrait qu'on puisse respecter la voix du souverain primaire. Et le souverain primaire a les moyens d'agir qui sont prévus par la Constitution. Nous allons utiliser ces moyens pour faire entendre la voix du souverain primaire. Il faudrait que les dirigeants respectent la voix du souverain primaire, que la CENCO n'a fait que relayer et n'a rien dit d'autre de mauvais.
Voilà, alors Hubert, nous vous gardons à l'île pour la conclusion. Il est temps d'écouter également David qui nous a rejoint. David, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour David.
Bonjour à tout le monde, bonjour aux auditeurs de la radio 4.
Voilà, vous n'avez qu'une minute, hein, David. Quel est votre avis?
En tout cas, mon avis est celui de tous les Congolais. La CENCO est vraiment ce que je peux appeler gardien du temple. Elle voit les menaces qui pèsent sur notre pays. Tous ces conseils doivent être pris en considération. Et quant aux stratégies ou bien à l'appel et à la mobilisation pour pouvoir protéger la constitution du pays, en tout cas, tout celui qui aime le Congo ne peut être que derrière la CENCO. Mais particulièrement, moi, je voudrais dire quelque chose à nos compatriotes de la majorité présidentielle. On ne peut pas menacer un peuple. Quand un peuple veut revendiquer ses droits, on ne doit pas lui dire non, il y aura le sang qui va couler, il y aura des morts. Non, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vaincu le peuple. Vous pouvez menacer le peuple de faire couler son sang. Votre sang aussi peut couler. Pensez à Ceausescu, pensez à Gay, pensez à tous ceux-là qui ont menacé le peuple, mais à la fin, le peuple les a vaincus. Donc, moi, je pense que respecter la Constitution, organiser les élections dans les délais, c'est vraiment important. On ne peut pas suspendre la vie d'une nation au sort d'un individu, président de la République, soit-il. Ce n'est pas ça. Nous allons vraiment nous mobiliser pour faire respecter la Constitution de notre pays. Trop de morts, ça suffit. Nous allons vraiment nous y employer.
Merci beaucoup, David. Alors, Maître Hibert, c'est vrai, aujourd'hui, c'est un travail qui doit être fait par les acteurs de développement, les acteurs qui, en fait, évoluent dans le souci de pouvoir maintenir la démocratie, sauvegarder, consolider donc la paix. Et c'est un travail qui est fait en train d'arrache-pied par les différentes. Le travail qui est accompli par les acteurs politiques, pardon, les acteurs sociaux que vous êtes, au niveau de la société civile, voilà. Alors, Maître Hubert, comment maintenant capitaliser cet appel de la CENCO au niveau des différentes ONG?
Nous allons capitaliser ce message en nous associant avec non seulement l'Église catholique, mais avec les autres églises, avec les imams dans les mosquées, pour sensibiliser le citoyen à faire respecter la Constitution, à protéger ses droits civils et ses droits politiques. Nous allons capitaliser ce message au maximum en allant partout là où l'Église va nous permettre, partout là où les mosquées vont nous permettre de parler, pour que ceux qui sont maintenant en minorité, qui sont à Kinshasa, et toute la majorité qui est dans l'étendue de la République, il faudrait maintenant avoir une lecture sociologique. La majorité, c'est la population.
Voilà, Maître Hubert Tshisoka, merci. Nous rappelons que vous êtes directeur général de l'Institut des recherches en droits humains. Vous avez été notre invité. Merci également à Nini Kindou qui a assuré la mise en onde de cette émission et qui a été produite par l'équipe composée de Julie César Bongonda au standard et Thierry et la Mégie à la réalisation. Une émission qui vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungebo sous la supervision éditoriale de Martin Sebou Jagué. On se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.